Bonjour, bienvenue à Radio Economica ce jeudi matin. Nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Xavier Dupré, économiste, qui nous parle souvent de pays lointains dans leurs relations avec l'Union européenne et qui se proposait de nous parler à propos d'Afrique, des accords de libre-échange au partenariat pour le développement. Donc bonjour, Monsieur Dupré.
Bonjour.
On est donc ravis de vous avoir. Vous avez attiré attention, en fait, récemment, sur un blocage. Enfin, il y a des négociations actuellement entre l'Union européenne et l'Algérie pour un accord de libre-échange, tout aussi dans le cadre de la politique de voisinage et d'un accord d'association qui existe avec l'Union européenne. En fait, pourquoi existe-t-il un blocage dans ces négociations et que souhaite l'Algérie? Moi, j'ai travaillé un petit peu dans la documentation que vous m'avez envoyée. J'ai vu que 8% des exportations de l'UE et moins de 7% des importations européennes arrivaient ou venaient d'Afrique en 2016. Alors, c'est peut-être peu pour l'Union européenne, mais peut-être beaucoup pour l'Afrique. Alors, ceci, c'est une espèce de donnée statistiques pour essayer de mieux comprendre pourquoi des perspectives d'accords de libre-échange seraient bloquées, il y aurait des difficultés.
Alors, mais si on repart des articles qui avaient servi à expliquer la position d'Alger, mais on va retrouver la même logique dans la plupart des pays africains. C'est que globalement, ce sont des pays qui sont exportateurs de matières premières. Et là, ils ont de l'exportation. La demande de matières premières a surtout été en croissance ces dernières années à partir de la Chine. Mais en termes d'industrie, ce sont des pays qui sont quand même globalement beaucoup moins compétitifs que les producteurs européens, les industries européennes, les groupes multinationaux. Et donc la tentation qui est là pour un certain nombre de pays, en ce compris l'Algérie, mais d'autres pays d'Afrique, hein, comme je le disais, sont dans la même logique, c'est de voir disparaître leurs industries parce qu'elles ne seraient pas compétitives face aux géants européens. D'où des reports, et alors en ce qui concerne l'accord de libre-échange avec l'Algérie, ces reports, en réalité, enfin, on reporte la chose depuis une dizaine d'années, et on est reparti pour renégocier un report pour protéger un certain nombre d'industries naissantes. Donc en réalité, si vous voulez, c'est toute la politique de substitution aux importations par des barrières protectionnistes qui est quelque part contredite par des accords de libre-échange. Alors je pense qu'il faut faire observer ceci, c'est que, bon, dans le cas de l'Algérie, c'est très compliqué. Il y a eu une tentative d'intégration d'union du Maghreb arabe sur un modèle qui aurait ressemblé à ce qu'était le marché commun, hein, donc vraiment la genèse de l'Union européenne. La question des relations très conflictuelles et très compliquées, à tout le moins, entre le Maroc et l'Algérie, ont complètement bloqué cette dynamique. Et donc, aujourd'hui, on est dans du bilatéral entre chaque pays du Maghreb et l'Union européenne. Alors, en revanche, il faut signaler que mais en élargissant à d'autres régions d'Afrique, les accords de Cotonou, qui sont des accords, pas seulement de libre-échange, mais de partenariat économique. On reviendra sur ce glissement sémantique important dans la suite, dans le décours de la conversation, ont toujours insisté sur le fait d'obtenir un accord entre l'Union européenne et des entités régionales, donc par exemple la CEDEAO, l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi? Parce que globalement, les industries naissantes dans ces pays africains, qui ne sont pas compétitives face aux industries européennes, là, il n'y a rien, c'est vrai. Le diagnostic est clair et précis et est exact. On pouvait toujours se dire, pari de l'Union européenne, que si on arrivait à un accord à un niveau intra-régional en Afrique, ces industries pourraient éventuellement, avec une application assez longue d'accords de libre-échange, gagner en efficience économique pour devenir, à un moment donné, des acteurs régionaux capables de soutenir une concurrence avec des industriels européens. Bien. Dans le cas de l'Algérie, c'est impossible. Alors, je pense qu'il ne faut pas non plus sous-estimer des réalités qui sont des réalités locales. L'Algérie n'a pas un problème de compétitivité aujourd'hui parce qu'elle n'a pas réussi à faire l'union du Maghreb arabe. Ça aurait été mieux. L'Algérie a 100 milliards de dollars qui ont disparu de ses réserves au cours des 10-15 dernières années. Ça aurait aidé au développement industriel. Donc,
Disparu. Oui.
disparu, mal géré, prêté, on ne sait pas trop. En tout cas, en termes de transparence de la gestion, ça, c'est clair que c'est vraiment pas. L'objectif n'a pas été atteint. Ce n'est pas du tout une gestion transparente. Alors, je crois qu'aujourd'hui, on est en train d'assister au retour de ce discours. Alors, si vous voulez, mon sentiment par rapport à ça, c'est que globalement, regardez, il y a un accord de libre-échange qui a été conclu entre la Chine. Vous allez voir que le parallélisme, là, il a l'air un peu bizarre, mais il va vite s'imposer. Entre la Chine et toute une série de pays émergents ou déjà émergés en Asie et en Océanie. Ces pays ont d'abord développé des capacités productives locales avant de commencer à conclure des accords de libre-échange entre eux. En Afrique, on fait juste l'inverse. On est tout le temps sur la structure. On sent bien qu'il y a une volonté de parler de la structure de gouvernance, à partir de laquelle on va pouvoir se projeter dans un accord avec l'Union européenne. Et globalement, le développement industriel, il n'est pas là. Et je crains malheureusement que dans les blocages aujourd'hui, des accords de Cotonou, dont nous reparlerons,
Alors
dans quelques.
cette fois, on parle d'un autre ensemble, enfin, dans les
Oui,
pays ACP.
c'est vrai. Enfin, quoi que les pays ACP, vous pouvez toujours retirer les Caraïbes et le Pacifique, ce sont des partenaires assez anecdotiques par rapport à l'Afrique, hein. Non, mais c'est vrai, je veux dire, dans ACP, il y a surtout A, Afrique. Il y a un peu C, Caraïbes, et puis le P de Pacifique, c'est vraiment, c'est anecdotique, hein. Donc, il y a cette tentative d'avoir une grande zone de libre-échange intra-africaine, et puis
Qui
ensuite,
demande ça? Qui demande ça?
mais c'est assez présent, hein, en Afrique aujourd'hui, d'avoir une grande zone, et puis ensuite de se reprojeter avec les Européens et de dialoguer avec l'extérieur à partir de cette grande zone interne. Bon, c'est un serpent de mer qui débouchera sur pas grand-chose, je le crains malheureusement, parce que, vous savez, bon, on peut. Les unions régionales en Afrique, vu la faiblesse de la demande interne, ces pays n'ont pas d'industrie spécialement tournée vers leur population, vers un marché intérieur, et donc ces pays commercent très peu entre eux, en réalité. Donc, ce faisant, travailler à ce niveau-là suppose, et ça c'est, je crois, quelque chose d'intéressant de la part de l'Union européenne, ça a sa raison d'être. On va travailler à partir de ces blocs-là parce que c'est là qu'il y a une masse critique de consommateurs, par exemple la CEDEAO en Afrique de l'Ouest. Donc là, à ce moment-là, il y a un espoir d'avoir des industries qui, au moins sur le plan régional, peuvent soutenir la concurrence, mais évidemment, il faudra accompagner cette ouverture économique de partenariats en vue d'une série de modernisations à la fois technologiques, productives et sociétales. Et c'est là-dessus qu'aujourd'hui l'Union européenne, à mon avis, est en train de marquer des points face à ses grands concurrents en Afrique. Alors c'est vrai, vous allez me dire, ça représente, c'est vrai, beaucoup d'argent, ça représente, on a déjà fait beaucoup de coopération au développement. Je crois que ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a une option sur le développement économique qui est elle-même mobilisée par le libre-échange, la volonté de proposer des accords de libre-échange. et avec une volonté également d'accompagnement de ce que ce libre-échange pourrait représenter en termes potentiellement déstabilisants pour ces pays, en leur proposant donc effectivement un accompagnement, et donc on retrouve l'ensemble des priorités, on retrouve un ensemble de priorités qui globalement sont celles des modernisations productives aujourd'hui. Vous avez la priorité aux filières vertes, en matière d'énergie. En Afrique, ça a du sens. C'est très rentable. Le numérique. Il faut quand même se rendre compte que quand on a des échanges avec certains pays africains, type Webex ou Zoom, c'est une catastrophe. Il y a vraiment, en matière de télécommunication, des choses à faire pour vraiment faire entrer l'Afrique de plein pied dans l'économie du numérique. Si on ne le fait pas, ces pays ne vont pas connaître le développement industriel qui serait susceptible d'enclencher des gains de productivité qui eux-mêmes vont alimenter le pouvoir d'achat de la population locale. Et donc, ces pays continueront, si c'est pas le cas, si ces gains de productivité n'apparaissent pas, ces pays continueront à ne pas commercer entre eux. Et donc, on aura des unions régionales qui sont un peu des coquilles vides sur le plan économique, pas tellement sur le plan politique. On voit régulièrement la CEDEAO intervenir dans tel ou tel pays d'Afrique de l'Ouest parce qu'il y a un souci. Et plus souvent, ce sont des soucis graves qui sont. On est quand même au bord de la guerre civile, mais sur le plan économique, il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Quand je parle d'économie, je parle vraiment d'économie productive. Il y a régulièrement une volonté d'émancipation entre guillemets. Monétaire, c'est-à-dire d'avoir une monnaie, mais c'est déjà le cas aujourd'hui, que le franc CFA, par exemple, une monnaie locale. Mais là encore, on peut avoir une monnaie, c'est un cadre régalien, parfait, mais si vous n'avez pas les échanges industriels entre les pays, c'est à nouveau une coquille vide. Et donc là, il y a un besoin d'investissement et il faut orienter la coopération au développement sur ces grands thèmes de modernisation économique. Là, je pense qu'on tient quelque chose qui nous positionne de manière favorable face à des concurrents.
Alors, moi j'ai fait toujours mes petites lectures. Je voyais que l'Union européenne est actuellement, mais c'est peut-être insuffisant, le principal partenaire et la première source d'investissement en Afrique, puisqu'elle assure un tiers des échanges commerciaux de biens avec l'Afrique, c'est-à-dire alors que la Chine pèse 17% et les États-Unis 6%. Parfois, on a l'impression que c'est différent. Et en 2017, les investissements directs des 27 États membres représentaient, semblerait-il, 5 fois ceux des États-Unis et de la Chine. Quant à l'aide au développement officiel fournie par l'UE et les États membres, elle pèse 46% de ce que reçoit l'Afrique. Alors, l'investissement est une clé, d'autant que l'Union européenne semble se donner actuellement des moyens tout à fait nouveaux, sans précédent, hein. On pense aux 1 800 milliards d'euros du plan de relance et du budget pluriannuel, sans compter d'autres paquets plus liés à la crise du coronavirus. Alors, si on parle d'une nouvelle approche stratégique avec l'Afrique, quel pourrait être le rôle de l'Afrique dans ce plan de relance européen, en particulier, sachant que l'Europe a fait une analyse de ses besoins à travers Next Generation EU, et elle dit, il faut soutenir, il y a un besoin européen, soutenir les politiques industrielles et les politiques de recherche européennes, réduire les dépendances vis-à-vis de certains pays tiers. Est-ce qu'il y a là, dans cette mobilisation européenne, à concrétiser bien sûr, parce que les décisions viennent d'être prises, une chance pour l'Afrique?
D'abord, faisons observer ceci. En termes d'investissement, en Afrique, ce qu'on voit, c'est quand même clairement de l'investissement, certes européen, certes important, mais il est qualitativement lié aux matières premières. Donc, il y a des investissements à faire dans l'économie du numérique, dans la valorisation des filières vertes, et ça ne se fera qu'à condition qu'il y ait à un moment donné un cadre de régulation et d'impulsion qui ne peut se situer de manière raisonnable qu'ici, de ce côté-ci de la Méditerranée. En Afrique, les États sont quand même très faibles par rapport à des investisseurs privés. Il suffit de prendre le PIB total et de le comparer, pardon, le chiffre d'affaires de Total et de le comparer au PIB du Gabon, par exemple. On verra quand même qu'à un moment donné, le Gabon, Libreville, est quand même très démuni face à de grands investisseurs. Donc le cadre, il est européen et il doit porter sur un certain nombre de politiques sectorielles qui sont bien nommées, qui sont bien désignées dans les récentes décisions qui doivent encore être appliquées. On verra comment ça se passera du côté de l'application. Alors, en termes, alors par rapport à un certain nombre de concurrents, ben, il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas les États-Unis. Les États-Unis ont une présence en Afrique qui est devenue anecdotique, ils tentent de se relancer maintenant. On verra où, enfin, ils tentent de se relancer, mais on verra ce que fera Joe Biden, vraisemblablement, de ses intentions qui viennent de l'administration Trump. Ça a l'air assez compliqué chez eux. Ils ont, c'est vrai, quelques pays où ils sont très présents, mais globalement, c'est anecdotique. Le concurrent, c'est les Chinois. Alors, c'est vrai que les Chinois ne voient pas l'Afrique spécialement comme un partenaire. Ça, c'est évident. Ils voient l'Afrique comme un lieu, un continent qui regorge de matières premières, et donc ils ne permettent pas la rupture avec cette économie de la rente qui, quelque part, n'a pas permis un développement industriel et les fameux gains de productivité du facteur travail dont on parlait tout à l'heure en Afrique. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, c'est vrai que sur les travaux publics, ils sont très présents. Ça, il faut pas le. C'est vrai. En partie, parfois, parce que des régulations européennes. Bah, si vous prenez par exemple tout le secteur des barrages, aujourd'hui, c'est quelque chose de barrage hydraulique. Bon, bah, côté européen, c'est mal vu pour des questions, des raisons environnementales. Côté chinois, c'est très fortement pratiqué. Donc, ils y encouragent. Là, il y aura peut-être des choses à revoir. Il faudrait éviter à un moment donné qu'on ne projette sur l'Afrique plus que ce qu'elle ne peut faire. Je veux dire, le début de notre développement industriel à nous, en Europe, s'est produit dans des conditions environnementales bien plus déplorables. Ça, c'est une première parenthèse. Deuxième parenthèse, c'est vrai que les Chinois ne posent pas de conditionnalité, eux, quand ils accordent des prêts à certains gouvernements africains. D'où peut-être des gestions de fonds qui sont beaucoup plus opaques et beaucoup plus discutables. Avec, m'a-t-on dit sur place, par moment, des routes qui se dégradent très vite au bout de 5 ans, mais c'est parce que les Chinois ont considéré que certaines pots de vin étaient des coûts de production. Et donc, il ne fallait pas exiger une route, impeccable quand il y a eu autant de mains qui se sont servies entre-temps. Ça m'a l'air réaliste, hein. Maintenant, c'est vrai que si on met sur la table, côté européen, à côté d'exigences environnementales, pourquoi pas? Elles ont leur sens. Elles ont aussi leur coût, mais elles ont leur sens. Et d'exigences en matière de transparence, avec donc un certain nombre de conditionnalités, si vous voulez, ça c'est le bâton, mais si on met la carotte d'investissement dans des secteurs d'avenir, et tu sais que le mot avenir a du sens en Afrique, en terre, quand on pense à la jeunesse de ces populations, là je pense qu'on a un levier pour vraiment mettre les Africains autour de la table, pas tous, mais en tout cas une grande partie de ces gouvernements, autour de la table pour pouvoir à un moment donné moderniser ses économies. Ça, je pense que. Mais il faut un levier. Et alors, l'aide au développement, la question de l'importance de l'aide au développement. Il est clair que l'Union européenne dispense une aide au développement plus importante que les Chinois, ça c'est le moins qu'on puisse dire, ou que les États-Unis. Il faut la. Si vous voulez, la question va être de potentialiser cette aide au développement avec des objectifs sectoriels concrets. C'est-à-dire que il y a quand même quelque chose qui ressemble de temps en temps à du saupoudrage, non pas tellement de la part de l'Union européenne, mais les gouvernements locaux essaient plutôt de se servir de tout ce qui passe. Hein, on multiplie les projets, on essaie de les vendre, et on n'a pas véritablement 4 ou 5 axes incontournables et exclusifs à partir desquels formuler des projets. Donc, il y a toute une ingénierie de projet en Afrique, il y a des grands spécialistes, Et ils peuvent faire des projets un jour de formation professionnelle, le lendemain de protection de l'environnement. Voilà, ça existe. C'est même la coopération au développement. Il faut simplifier les axes. La question des moyens, en fait, les moyens, s'ils ne sont pas, comment dire, formatés par des axes d'intervention majeurs, on va perdre encore des années, parce que c'est vrai que l'Afrique a reçu l'équivalent de plusieurs plans Marshall. On n'a toujours pas vu de décollage. Donc, il faut maintenant vraiment cerner quelques secteurs et mettre vraiment les moyens à disposition. Et mettre les moyens, faire entrer les moyens, sans nécessairement augmenter les enveloppes budgétaires, faire entrer ces moyens sur ces axes stratégiques-là. Il ne peut plus y avoir aujourd'hui, si vous voulez, chaque projet qui est proposé en Afrique doit avoir une composante emploi, ça doit servir à l'emploi, et une composante gain de productivité. Ça doit augmenter l'efficience économique locale. Alors, vu la situation, alors c'est vrai que tout ça a l'air un peu utopique, je ne le cache pas, mais vu la situation de certains gouvernements, je veux dire, vous avez 50% de la population qui a moins de 25 ans, des taux de chômage qui sont assez affolants. Bah, ça crée une situation, quand même, c'est un chaudron social particulièrement explosif. Et donc, je pense que les gouvernements locaux seront prêts à accepter, pour éviter des débordements qu'ils ne pourront plus maîtriser systématiquement à l'avenir, d'accepter des conditionnalités. Parce que ça, c'est central, les conditionnalités. C'est très, très central. Puisque vous avez, enfin, globalement, moi, je me rappelle. Bon, on plaisantait à une certaine époque et on disait que l'approche politique de l'Europe, bon, c'était cruel, hein, vis-à-vis de l'Afrique, c'était la démocratie sans le développement. Mais bon, c'est une mauvaise plaisanterie. C'est pour ça qu'elle est drôle. Mais cela dit, on doit quand même bien observer que dans la plupart des pays africains, un parti politique, c'est une ethnie, dans des pays qui sont plurinationaux ou pluriethniques. Si vous ne mettez pas de conditionnalité, vous pouvez avoir de l'alternance politique au pouvoir. Il y a de toute façon jamais, si vous voulez, de contrôle qui va permettre d'encadrer et de promouvoir de la transparence dans la gestion des affaires publiques. Chaque parti occupant l'État pour son ethnie, sa clientèle.
Qu'est-ce que vous entendez par conditionnalité? Parce que on en parle beaucoup en Europe actuellement. On parle conditionnalité macroéconomique, on parle de conditionnalité en termes de gouvernance, d'état de droit. À quoi est-ce que vous pensez?
Conditionnalité, c'est le cadre macroéconomique. Ça, c'est vrai. C'est la gouvernance. Ça, c'est fondamental. En Afrique, il y a un problème de gouvernance. C'est-à-dire, les 100 milliards de dollars qui disparaissent, bah, qui sont pas là aujourd'hui. Je veux dire, où est passé cet argent? C'est la grande question qui occupe tous les médias algériens aujourd'hui. Il y a eu un problème de gouvernance en Algérie. Donc ça doit être très clair. Le cadre de gouvernance doit être clair. Je tiens à dire d'ailleurs que c'est pas du néocolonialisme de la part, ce serait pas de la part de l'Union européenne une marque de néocolonialisme, puisque la plupart des organisations de la société civile dans ces pays demandent de la transparence dans la gestion des finances publiques par les gouvernements. Donc la lutte contre la corruption est soutenue par les populations locales. En tout cas, la société civile organisée. Donc je pense qu'il y a là, ça c'est vraiment un point essentiel. En termes de gestion macroéconomique, je pense que l'Afrique n'est pas l'Amérique latine. Je veux dire, on ne voit pas d'épisode d'hyperinflation, c'est relativement contrôlé. Il est vrai que l'arrimage de monnaie locale à la BCE et à l'euro, de fait ou de droit, de toute façon, assure une stabilité macroéconomique. Donc c'est vraiment une question de gouvernance. Il faut vraiment faire attention à la gouvernance. Quant à l'état de droit, il y a eu une grande progression sur ces questions en Afrique. La société civile s'organise beaucoup plus librement qu'à 30 ou 40 ans. On voit également que la presse également est beaucoup plus libre. Donc, c'est vraiment le cadre de gestion, de gouvernance. Comment est-ce qu'on gère des deniers publics? Et le partenariat, mais ça, la conditionnalité, l'inconditionnalité comme respect de la souveraineté, ça, c'est la doctrine des Chinois. Point. C'est pas la nôtre, c'est pas l'Europe. Alors, sur nos valeurs, est-ce que ça voudrait dire que demain, sur des questions d'éventuelle répression de mouvements sociaux, de gestion de tensions politiques particulièrement répressives, on pourrait dire à certains gouvernements, jusque-là, mais pas plus loin, il faut faire attention, ça peut entraîner une révision drastique de l'aide. J'ai presque envie de dire que ce débat politique-là, je ne vais pas le trancher comme économiste, mais je peux vous dire ceci, c'est que quand un pays s'embrase, en règle générale, y injecter des fonds, c'est jeter de l'argent par les fenêtres. Ça n'a aucun sens économiquement.
Donc, il faut de la stabilité.
Il faut un minimum de stabilité. Et cette stabilité n'est pas garantie à long terme si on n'a pas une transparence du cadre de gestion des finances publiques. Et ça s'appelle, enfin, pour le dire très, très platement et très concrètement, et même un peu brutalement, ça s'appelle la lutte contre la corruption.
Alors, peut-être pour finir un peu cet échange, je voudrais citer Monsieur Borrell, le haut représentant à la politique étrangère et de sécurité, sur son blog, qui avance cette idée qu'il faut lier la quête d'autonomie stratégique avec la politique étrangère européenne. Et je le cite, il dit, c'est extrêmement volontariste, Our partners' stability and prosperity are crucial for the EU's own security and strategic interests. Et je reprends les conclusions du Conseil européen du 30 juin 2020, qui souligne que le partenariat Europe, Union européenne, Afrique doit reposer sur la réciprocité, la responsabilité partagée et l'action conjointe. Alors, vous parlez de conditionnalité, mais j'ajouterais peut-être une question qui est tout de même dans le paysage. Et quel peut être, selon vous, le poids de la question migratoire et de la mobilité au niveau continental, régional et bilatéral dans ces négociations au-delà du commerce?
Bon, je pense que là, je ne peux que me prononcer en fond, non pas en termes, il y a pas, j'ai pas là de références bibliographiques, d'éléments dans le champ disciplinaire de l'analyse économique qui me permettent de m'avancer plus avant. Je dispose pas de ça, mais je ne crois pas qu'à l'avenir on pourra avoir des échanges migratoires entre l'Europe. Nos populations en Europe ne sont pas ouvertes à des flux migratoires. Ça, c'est très clair. Je le vois. Ça se voit. Alors, il faudra là-dessus, je pense, encourager une plus grande mobilité à l'intérieur des unions régionales en Afrique, spécialement la mobilité des élites, des universitaires, des chercheurs. Ça peut se faire avec le secours de l'Union européenne, avec le secours financier, le soutien, pardon, le soutien financier de l'Union européenne, des partenariats avec des universités européennes. Ça, là, je crois qu'il y a quelque chose là en termes de dynamique migratoire qui peut vraiment s'articuler avec des moyens européens de manière réaliste. En revanche, s'il devait y avoir dans la tête de certains dirigeants en Afrique que la réciprocité implique que des jeunes viennent ici et rapidement des papiers et puissent envoyer de l'argent sur place parce que ça fait les envois de migrants, les envois de fonds de migrants sont une ressource importante pour certains pays africains. Là, je pense qu'il faut pouvoir, ce sera pas possible. En tout cas, moi je le souhaiterais, j'ai pas de souci avec ça, hein, mais je vois bien ce que sont les opinions publiques en Europe en ce moment par rapport au thème des migrations. Soyons volontaristes, mais peut-être pas nécessairement non plus dans l'utopie. Voilà.
Très bien. Donc, si j'ai bien compris, vous croyez à l'utilité quand même du libre-échange comme discipline économique, tout en appelant de vos voeux ce que la stratégie européenne semble pousser, hein, qui est la mise en place de partenariats, c'est-à-dire d'une authentique coopération avec les pays de l'Afrique sur des objectifs précis. Vous avez cité l'économie verte, le
Le numérique,
numérique.
très important. Oui, c'est une bonne discipline d'échange. Hein. Faut pas remonter, faut remonter jusqu'à David Ricardo. Le libre-échange permet d'utiliser de manière efficiente ses ressources. Alors, dans le cadre européen, on ne peut pas dire qu'on soit spécialement les plus. Enfin, je veux dire, les États-Unis ont une approche beaucoup plus radicale de ce qu'est le libre-échange. Une fois qu'on a fait un partenariat, il faut aller très très vite vers un démantèlement de toutes les barrières de protection. En Europe, on tolère pendant. C'est l'esprit même de Cotonou. On tolère un certain nombre de barrières pendant un certain temps et on laisse les acteurs essayer de développer des solutions locales pour rester compétitifs. On ne peut pas dire qu'on n'est pas dans de la réciprocité dans ce cas-ci, hein. Donc, le démantèlement n'est pas brutal, n'est pas radical. Donc, si vous voulez, il y a effectivement le libre-échange comme outil de promotion d'efficience économique, pas de souci. Donc, ça, c'est l'économie. Puis, d'un autre côté, il y a les sociétés. Elles ne sont pas. Enfin, je dis, il faut qu'elles s'adaptent, il faut qu'elles prennent le temps de s'adapter. Maintenant, en Afrique, c'est vrai que l'Afrique a eu beaucoup de temps et je pense qu'il ne faut plus en perdre davantage. Et c'est dans ce sens-là que je dirais que vous avez peut-être apporté, vous, la conclusion de manière un tout petit peu prématurée, mais ce n'est pas un reproche, en citant M. Borrell, oui, effectivement. Donc, mais il n'est pas dans l'intérêt des Européens de laisser les Africains continuer à perdre du temps. Ça, c'est pas possible. On commence déjà à voir des phénomènes en Afrique de l'Ouest, en Afrique sahélienne, de déstabilisation complète de ces pays sous la pression salafiste. C'est-à-dire des. Et de ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'on n'est plus du tout sur un terrain, si vous voulez, le Sahel, c'est plus le Mali, un peu le Niger. La pression salafiste va jusqu'en Guinée aujourd'hui. Donc, on ne peut plus perdre de temps. Donc, et c'est dans notre intérêt de développer les industries de ces pays, puis développer de l'efficience économique pour éviter ce type de scénario catastrophe. C'est dans leur intérêt aussi, c'est dans leur intérêt, ça c'est éminemment dans leur intérêt, c'est vrai que dire un État failli, il n'y a rien de pire comme expérience. Mais ça suppose aussi un certain nombre de conditionnements. Mais les conditionnements sont eux-mêmes la garantie de bénéfices. Là, on n'est quand même pas spécialement, on peut pas dire que c'est spécialement, comment dire, unilatéral de la part de l'Union européenne.
D'accord. Très bien. Bah, écoutez, on conclut sur ces mots.
Je vous en prie, merci.
Merci à vous. Au
Au
revoir.
revoir.